gauche est achetée par moi. Par contre, la main. La droite est achetée par la fenêtre, on savait déjà ça. En plus, la gauche en plus. Voilà, regarde. Un bon discours politique par deux choses très importantes. Un bon début, une bonne fin. Et si possible, que les deux soient plus près possible l'un de l'autre. Française, français, voir deux choses, un bon travail, une bonne santé. Vous avez une bonne santé, j'ai un bon travail. On va s'arranger.
Vous avez presque tous les droits. Il y a du chômage. Les gouvernements, ils profitent des jeunes. C'est pas nous qui ont la parole. C'est les banquiers et les politiques. Ils font rien pour nous. Ils nous enlèvent tout.
Personne ne le sait. Pourquoi ? Parce que je pense que si on connaissait ce chiffre, on serait tellement horrifié de voir que les multinationales payent si peu d'impôts.
On les appelle les indignés. Le mouvement a débuté en Espagne. Depuis quelques jours, une cinquantaine de jeunes sont rassemblés pacifiquement place de la Comédie. Plusieurs policiers sont intervenus pour dégager le campement improvisé.
Et bonsoir, bonsoir. Vous êtes bien sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. Et on va commencer ce Canu Info puisqu'il est 19h19, donc il est plus que temps de le commencer. Je suis vraiment désolé de ce retard. Mais c'est pas grave, j'ai quand même plein de choses à vous dire et on va quand même passer un agréable moment ensemble, je l'espère. Donc du coup, le déroulé de ce Canu Info. Alors, on va commencer par parler du Forum Social Mondial, qui est un petit peu une sorte de sommet international de l'altermondialisme et qui s'est déroulé du 24 au 28 mars en Tunisie, à Tunis. On va ensuite parler de la loi sur la vigilance des multinationales françaises qui a été votée à l'Assemblée ce lundi. On fera ensuite un petit point sur la zone à défendre de Roibon et sur le festival Semtabut qui va se tenir sur la ZAD à partir de ce week-end. On fera ensuite un petit agenda alternatif pour le week-end et la semaine à venir. Que vous sachiez quoi faire, qu'est-ce qu'il y a à faire sur Lyon et les environs. Et on finira le journal par un reportage à la Petite Rustine, qui est un atelier de réparation de vélos, notamment, pas seulement. Donc voilà, donc on commence tout de suite avec le Forum Social Mondial, qui s'est tenu à Tunis du 24 au 28 mars et qui a réuni à peu près 45 000 personnes de plus de 120 pays différents. Il me semble que c'est un événement important puisque ce forum, c'est le rendez-vous des organisations et des mouvements qui partout dans le monde sont opposés au néolibéralisme, qui cherchent ensemble des alternatives à ce modèle économique et politique. Et contrairement aux meetings politiques internationaux tels que le G8 ou le G20, où on ne parle que de croissance économique, de traités de libre-échange ou encore de stratégies de guerre, lors de ce forum, on aborde plutôt des problématiques liées à l'écologie, la souveraineté alimentaire, l'agriculture paysanne, le droit des femmes, l'autodétermination des peuples, la lutte contre les multinationales, les institutions financières, etc. Donc, même s'il y a eu un peu moins de monde que les années précédentes, la tenue de ce forum, c'est déjà un succès, car les organisateurs de ce sommet de l'altermondialisme ont eu peur de devoir annuler cette édition 2015. Alors pourquoi ils ont eu peur d'annuler ? Eh bien déjà, il faut savoir qu'un attentat a eu lieu à Tunis quelques jours avant, le 18 mars au musée Bardo, où plus de 20 personnes ont trouvé la mort. Il y avait donc un climat très tendu dans la capitale tunisienne en ce milieu du mois de mars et une atmosphère d'ultra renforcement sécuritaire. Alors il faut dire que la Tunisie est un pays très touché par les attaques terroristes. Voilà, et c'est notamment pour ça que les participants du forum ont ouvert ce forum social mondial avec une manifestation, voilà, pour s'exprimer contre le terrorisme, pas seulement aussi contre comme je l'ai dit contre le néolibéralisme et contre notamment les arrestations politiques faites par le régime politique en Tunisie, mais voilà, ils ont aussi manifesté contre le terrorisme. Alors maintenant, il faut aussi se demander pourquoi ce forum se tient en Tunisie. Alors en fait, le choix, c'est un écho à la révolution tunisienne de 2010-2011, hein. La révolution qui a ensuite embrasé de nombreux pays du Maghreb et du Moyen-Orient, mais qui a commencé en Tunisie. Et il se trouve qu'aujourd'hui, en Tunisie, malgré le renversement du dictateur Ben Ali, la société est toujours muselée, on peut le dire. On peut prendre l'exemple d'un événement récent, par exemple l'emprisonnement du jeune Tunisien Yassine Ayari par un tribunal militaire tunisien. Donc Yassine Ayari, c'est un jeune ingénieur informaticien qui a pris au début de cette année un an ferme seulement pour avoir critiqué l'armée et le gouvernement sur Facebook. Donc on voit bien que la liberté d'expression n'est toujours pas existante en Tunisie. Et le parti actuel Nida Tounes, qui a été élu aux dernières élections législatives l'année dernière, se sert en fait de cette image anti-islamiste et de son combat contre le terrorisme pour mieux surveiller et réprimer sa population. Voilà, c'est triste. Comment se servir d'événements, de faits réels, hein, c'est sûr, la menace terroriste est bel et bien présente en Tunisie, mais pour mieux, pour mieux contrôler et réprimer sa population. Et c'est en tout cas ce que disent de nombreux Tunisiens qui participaient au forum. Ils se plaignent de leur régime actuel, finalement. Et on peut avoir un autre exemple de cette absence de liberté le 13 mars dernier, où un animateur télé et un humoriste célèbre ont été arrêtés pour offense au président, simplement. Donc, malgré ces événements, on peut tout de même dire que la Tunisie est sortie de la dictature politique. C'est peut-être pas aussi sévère que sous Ben Ali, mais dans tous les cas, ce pays est toujours en dictature économique. Alors en effet, il doit rembourser une très lourde dette à l'Europe, et ce depuis 29 ans déjà. Et on sait très bien quelles sont les conséquences, hein, quand un pays est lourdement endetté. La population subit la pire des politiques d'austérité, tandis que les grandes entreprises multinationales ont les mains totalement libres pour piller les richesses du pays et contrôler le marché de l'emploi. Aujourd'hui, de nombreux Tunisiens sont en situation de grande précarité, voire de pauvreté, et ils ont beaucoup de mal à trouver du travail. Et oui, c'est ce que je disais. Un travail décent surtout. D'ailleurs, selon un rapport très récent de l'OCDE, donc l'Organisation de Coopération et de Développement Économique, la moitié des jeunes Tunisiens occupent des emplois informels, avec peu, voire aucune protection sociale. Et pour l'autre moitié travaillant dans le secteur dit formel, ils sont également nombreux à n'avoir décroché que des contrats de travail temporaire, ce qu'on appelle CDD en France. Donc ce phénomène de sous-emploi, il démontre bien la faiblesse de l'État tunisien en termes de création d'emplois et de prestations sociales, notamment en ce qui concerne l'intégration des jeunes dans la vie active. Cette situation en Tunisie, elle est la même dans de nombreux autres pays dans le monde, hein, qu'on appelle économiquement fragile. Mais ce que cache ce terme, c'est en réalité endetté auprès des grands États occidentaux, bien souvent, et donc de facto à la merci de leurs multinationales. À croire qu'aujourd'hui, la rhétorique de la dette est l'arme la plus efficace trouvée par les grandes puissances. Les grandes puissances telles que les États-Unis, la Chine, la France, le Royaume-Uni. Et c'est avec cette rhétorique aujourd'hui clairement que s'impose un nouvel ordre mondial néolibéral. C'est ce qui se profile, on dirait en tout cas. Mais on espère qu'avec des événements tels que le Forum social mondial, les citoyens continueront à faire contrepoids, à dégager des espaces de liberté de plus en plus, à gagner de l'indépendance et à trouver ensemble des solutions aussi face à la précarité. Voilà. On va commencer la musique aussi. J'ai vraiment du mal ce soir, je suis désolé. On va passer la première musique, le premier intermède musical, et je suis à vous tout de suite. On va écouter Fiction de Bale Bache Crew. Est-ce que ça marche ou pas? On dirait pas. Je réessaye une fois. Non, ça marche pas. Bon, bah, on va continuer le journal, tant pis. Il y aura pas de musique. C'est pas grave. Donc maintenant, on va parler d'une bonne nouvelle. Tiens, pour une fois, ça change un petit peu. Aujourd'hui, on a deux bonnes nouvelles. La tenue d'un forum social mondial. Et là, une autre bonne nouvelle. Enfin, pour moi, c'est des bonnes nouvelles. Une loi qui vient d'être votée. Qui oblige les multinationales françaises à être vigilantes envers leurs fournisseurs, filiales et sous-traitants. Donc cette loi, elle a été votée lundi dernier par l'Assemblée nationale. Et ce qui signifie que voilà, c'est les grandes multinationales, les grandes entreprises françaises auront comme obligation de surveiller les activités, donc comme je vous disais, des sous-traitants, des filiales, mais aussi des fournisseurs. Donc l'objectif affiché, c'est de prévenir les risques d'atteinte aux droits humains, à la santé des travailleurs, mais aussi à l'environnement et aussi à la corruption. Mais alors, ce que vous allez me dire, il y a peu de chances que les entreprises concernées respectent réellement ce devoir de vigilance. Ah, c'est vrai qu'on peut en douter. Sauf que la loi, quand même, elle prévoit également une amende de 10 millions d'euros que devront payer les multinationales avérées non vigilantes. Bon, bien sûr, on peut s'étonner que ce genre de loi puisse passer en France. La France, ce pays où un certain Emmanuel Macron raffole des législations liberticides pour les travailleurs. C'est pour cela qu'il ne faut pas non plus se leurrer. L'instauration de ce devoir de vigilance est depuis très longtemps contestée. En ce qui concerne les députés, déjà, il faut savoir qu'ils étaient seulement 25 lundi à l'hémicycle pour discuter du projet de loi. Donc 25, pour information, les députés, ils sont au total 577 en tout à l'Assemblée, ce qui signifie que lundi, il y avait 552 personnes absentes. Bien sûr, il n'y a jamais tous les députés présents pour n'importe quel projet de loi qu'il soit, mais bon, là quand même, 552 personnes absentes, ça me paraît énorme. Malgré tout, la loi a été votée lundi, donc comme je disais, mais attention, qui veut dire vote à l'Assemblée ne veut pas dire que la loi est applicable dès maintenant. Faut pas crier victoire trop vite. Vous savez comment fonctionne la politique. Le texte doit encore passer devant le Sénat, le Sénat qui lui est majoritairement à droite, puis encore une fois devant l'Assemblée. Et ensuite, la mise en œuvre de cette loi sera soumise à des décrets d'application. C'est-à-dire concrètement que notre cher Emmanuel Macron, dont on parlait tout à l'heure, ministre de l'économie et des finances, risque d'alléger la loi. En effet, il faudrait surtout pas vexer les lobbies du patronat, tels que le MEDEF ou l'Association française des entreprises privées. Qui bien sûr, ces lobbies contestent vivement toutes les contraintes qui peuvent être données aux entreprises. Alors que le projet a déjà été revu à la baisse une première fois. Il pourrait être revu à la baisse par la suite, mais il faut savoir que il a déjà été revu à la baisse. La législation qui a été votée lundi est donc en fait un texte allégé, puisqu'un premier projet avait été proposé et débattu le 29 janvier, mais il a été rejeté suite à l'hostilité du gouvernement, encore une fois. Alors maintenant, concrètement, pour qui va s'appliquer cette loi ? Eh bien, avec le texte en l'état, le devoir de vigilance concernera toutes les entreprises de plus de 5000 salariés en France et de plus de 10 000 salariés à l'étranger. Donc vraiment les très très grosses entreprises. Bon, c'est déjà un pas en avant, hein. Par exemple, Vinci sera concerné. Vinci, puisque ses filiales sont accusées d'utiliser des formes de travail indignes au Qatar. Total également sera concerné, puisqu'il est l'auteur d'un véritable désastre écologique au Nigeria. Mais cependant, avec ses critères d'effectifs très restreints, d'autres multinationales telles que Perenco ou encore Camailleux ne seront pas concernées. Alors pourtant, si on parle de Camailleux par exemple, cette entreprise, elle possédait une filiale au Bangladesh, au sein des ateliers textiles de Rana Plaza. Alors Rana Plaza, pour rappel, c'est un grand immeuble industriel qui s'est écroulé le 24 avril 2013 et ça a provoqué la mort de 1138 personnes, donc voilà, et ça a fait également plus de 2000 blessés, donc vraiment un drame. Et à ce jour, toutes les victimes de Rana Plaza n'ont pas été indemnisées, pas encore. Et du coup, cette loi sur le devoir de vigilance des multinationales envers leurs filiales, ça pourrait être un début de réponse à ce véritable drame. Hein. Voilà, pour dire oui, on s'en préoccupe, que les États au moins se manifestent face à des catastrophes pareilles. Mais non, parce que finalement, par exemple, ça ne va même pas concerner Camailleux, parce que Camailleux, on considère que c'est pas une assez grosse multinationale, alors que pourtant, c'est quand même son activité qui a provoqué la mort de milliers de personnes. Donc c'est une des multinationales coupables de ce drame. Alors conclusion à cette petite histoire, voilà, cette loi bien dans les faits mais qui est vraiment vidée de sa substance petit à petit et ça ne va faire qu'empirer, c'est que la politique française, elle a encore un long chemin à faire. un très long chemin à faire avant de rendre les entreprises de la France plus respectueuses des gens et de l'environnement. Et c'est malheureux, mais c'est vraiment l'analyse qu'on peut en faire, quoi. Je vais essayer de vous passer de la musique, mais je sais pas si ça va marcher. On dirait pas, hein. C'est embêtant. C'est vraiment dommage. Très dommage. Du coup, on va continuer. J'ai encore des informations pour vous, ne vous inquiétez pas. On va parler de la ZAD de Roibon. Voilà, sur la ZAD, la zone à défendre de Roibon. Donc, pour ceux qui ne savent toujours pas, déjà, Roibon, c'est donc une petite ville. Même un village, on pourrait dire. Il y a 1300 habitants à Roibon. Ce village, il est situé en Isère, à 1h30 de Lyon. Et il se trouve que dans ce village, donc, le promoteur immobilier Pierre et Vacances, en collaboration avec le conseil général de l'Isère, il a eu la merveilleuse idée de construire un center park qui accueillerait 5500 touristes en moyenne. Alors, ce qui signifie que 210 hectares de la forêt des Chambarans, donc la forêt qui appartient à la commune de Roibon, seront occupés par la structure touristique. Et il y a déjà quelques dizaines d'hectares qui ont été rasés à ce jour. Ça signifie également que les nappes phréatiques en dessous risquent d'être gravement polluées et vidées de leurs eaux, alors qu'elles permettent d'alimenter en eau potable de grande qualité toute la région. Et on peut aussi parler de l'impact sur la biodiversité du site, le site qui abrite des espèces animales et végétales rares et protégées. Et enfin, Pierre et Vacances vante son projet de créer des centaines d'emplois, sauf qu'il s'avère que 48% des emplois qui seront créés seront très précaires. Concrètement, ce sera l'embauche de techniciens de surface qui travailleront moins de 12 heures par semaine pour ne gagner que 370 euros par mois. Donc face à ce projet aberrant de plusieurs dizaines de millions d'euros, on comprend pourquoi des militants, des zadistes donc, ont décidé de venir occuper la zone pour justement empêcher ces travaux de construction et de destruction de la forêt. Et ils sont chaque jour plus nombreux à venir construire cabanes et barricades au milieu des bois, à vivre en petite communauté autonome. Ils reçoivent le soutien d'une partie de la population locale, même s'il y a également de nombreux habitants de Roibon qui soutiennent le projet de Center Park. Par exemple, quand on se rend à Roibon, on peut voir dès l'entrée du village des banderoles où il est écrit « Oui à Center Park » ou encore plus agressif « Zadistes dehors ». Du coup, c'est pas très accueillant quand on arrive sur le village. Une cabane a été brûlée également sur la ZAD récemment. Et il y a de nombreux contrôles et barrages policiers à chaque manifestation sur Roibon, ou même lors d'événements festifs et militants qu'organisent les zadistes sur la zone. Ces événements sont pourtant très conviviaux et ouverts à tous, avec concerts, spectacles, ateliers, constructions. Et tout ça organisé avec les moyens du bord. Donc voilà, c'est bien dommage que les forces de l'ordre viennent se mêler à tout ça, alors qu'il n'y a pas de véritable raison, ce ne sont voilà que des événements festifs. Alors par contre, pour l'instant, il n'y a pas encore de risque que les zadistes soient délogés comme à Sivens récemment. Heureusement d'ailleurs, puisque suite à des recours d'associations, notamment des associations écologistes, le tribunal administratif de Grenoble a suspendu le projet de Center Park en attendant la décision du Conseil d'État. Cependant, cette décision du Conseil d'État, elle devrait intervenir bientôt, dans quelques semaines. Et si Pierre et Vacances est autorisé à continuer les travaux, eh bien on peut craindre l'intervention des forces de l'ordre et une expulsion musclée des zadistes, comme cela a pu se dérouler donc à la ZAD du Testé à Sivens. Donc l'urgence elle est dès aujourd'hui, hein, se battre pour sauver cette forêt, c'est dès aujourd'hui. Il faut soutenir la lutte. D'ailleurs, il y a eu une manifestation hier à Grenoble qui a réuni 150 personnes. Alors elle est organisée à l'occasion de l'investiture du nouveau conseil général. C'était notamment l'occasion de rappeler aux nouveaux élus la détermination du mouvement d'opposition au projet de Center Park. Il y a des militants qui ont même réussi à entrer déguisés au sein du conseil général, qui ont interrompu la cérémonie d'investiture des nouveaux élus donc, et qui ont lu des textes d'opposition au projet de Center Park. Et dès qu'on arrivait à stopper un militant, il y en avait un autre qui arrivait et qui se mettait à lire le tract. Et donc pour continuer sur les actions de protestation, il y a une autre manifestation qui est prévue le 2 mai. et les effectifs attendus s'annoncent beaucoup plus conséquents que 150 personnes. Et sinon, à partir de ce samedi, se tient sur la ZAD de Roibon le festival Sème ta butte jusqu'au 12 avril, où je vous conseille vivement de vous rendre. Donc au programme de ce festival, donc différents ateliers de jardinage, de grimpe dans les arbres, d'écriture, de percussion samba, mais aussi de théâtre et de lecture collective. Et le week-end prochain, le 11 et 12 avril, donc, il y aura sur la ZAD des concerts hip-hop, une scène ouverte hip-hop aussi, ainsi que des projections de films et de documentaires. Voilà. Donc vous pouvez vous y rendre, c'est très sympa, et puis ça sort un petit peu de Lyon parfois, d'aller se perdre un petit peu dans les bois avec tous ces gens pour écouter un peu de musique ou faire de la lecture, du bricolage. C'est toujours sympa, quoi. Voilà. Donc ce journal est déjà quasiment fini. Je reste très peu de temps à l'antenne parce que mes émissions ne marchent pas et j'en suis très très embêté. Parce que j'avais tout un reportage à vous passer qui était assez long et très intéressant, mais on dirait que ça marche pas. Je sais pas. Ah si, ça a l'air de marcher, c'est cool. Je vais vous passer une petite musique déjà pour commencer, un petit intermède musical. On va donc écouter sur les remparts. Non, pardon, ça c'était la deuxième. On va donc écouter Fiction de Balé Bachekrou, comme je vous ai dit tout à l'heure. On l'écoute enfin. Fiction.
Les mentalités de notre société, difficile de ne pas les regretter. Je m'imagine face à mes enfants, qu'est-ce que je pourrais leur raconter? Dire qu'une histoire de loup-garou, parce que si la victime c'est nous, mes fils et fils, je vous attends, mais j'ai peur de manquer d'arguments pour vous expliquer ce qui se passe autour de vous, pour vous éclairer sur ce qui se passe dans ce monde de fous.
En effet, les gens ne sourient pas, c'est pas un conte de fées, tu baisses tes bras, tu n'iras pas. À droite, à gauche, derrière, devant, personne ne bouge, y'a que des morts vivants.
C'est juste une fiction, fiction. Nos fils et fils, ton dans ce monde en manque d'affection, donc place à la réflexion. Fiction, fiction. Pour nos fils et fils, ton dans ce monde en manque d'affection, donc place à la réflexion.
Qu'est-ce que je peux dire qu'une fois de plus, c'est le regard de celle que j'aime qui me fait fondre, que je m'aperçois que le monde s'effondre et que c'est ça qui me fait fondre. Des textes durs comme l'économie d'un pays du tiers monde, que quand j'aurai des gosses, je saurai pas quoi répondre aux questions qu'ils poseront sur le monde dans lequel nous vivons. Est-ce que je leur dirai qu'ils sont plongés dans une arène où la thune est la reine et les requins aussi nombreux que les femmes dans un harem? Est-ce que je briserai leurs illusions dès que possible? Est-ce que je leur dirais que le Père Noël est pédophile, que Dieu n'existe pas et qu'on est seul sur Terre, que pourtant pour lui des hommes s'envoient au cimetière, que cet homme crève de faim car personne ne sait qu'il existe, et qu'on ne prend pas la main qu'il tend car le bonheur est égoïste. Ils me demanderont c'est quoi la vie, j'en sais rien. L'existence est faite d'attente, certains attendent le grand love de leur vie, la plupart d'amasser des liasses, de lover, d'autres attendent de crever. Ils veulent une trêve car ils n'arrivent plus à rêver. Entre ceux-là t'as la femme battue qui rêve d'un bouquet de roses, et le camé qui attend sa dose, tous les smicards pour qui c'est tous les jours la même chose, toutes les poufias qui prennent les mêmes poses. Mais bon là c'est Moïse qui prend le dessus avec ses idées sombres. À présent je vois mon fils qui s'étonne et me questionne. Papa, pourquoi ces deux hommes s'embrassent comme maman et toi? Mais parce que c'est leur droit, surtout leur choix, surtout n'écoute pas ceux qui disent que c'est contre nature tout ça.
On prendra pour un gars marginal si t'écoutes reggae, raga, hip-hop et toute cette bombe de balle. Et oui c'est comme ça, au niveau son garçon y'a peu de bonnes vibrations. Endormi la population, faudra mettre des coups de pression. Y'a trop de pantins qu'on appelle staff, les vagues festins et vos costards. La mode rien à voir, trop de fossiles, sa classe et rend des types hostiles. Mais c'est une fiction, fiction. Pour nos fils et filles, ton dans ce monde on manque d'affection, donc place à la réflexion. Fiction, fiction. Pour nos fils et filles, ton dans ce monde on manque d'affection, donc place à la réflexion.
Attends avant de te brûler les ailes. Ne sois pas si impatient petit frère, tu n'es que débutant dans cette vie de misère, débutant dans cette drôle de galère. Ici c'est un pour tous et chacun pour soi, il va s'agir pour toi de grandir comme un soldat, d'éviter tous les coups bas et tous les bons vocables, d'esquiver toutes choses impures mais t'empêcher d'être un gros dur. Attends avant de te brûler les ailes. Attends, ne sois pas si impatient petit frère, tu n'es que débutant dans cette vie de misère, débutant dans cette drôle de galère. Apprenti dans la vie, c'est toujours ainsi, croire en un monde utopique, c'est classique. Allergique à la politique, tu n'as aucune notion du fric. Protège-toi des voies diaboliques petit frère, préserve-toi.
Personne ne porte d'attention à celui qui tombe à terre. Et y'a que dans le dictionnaire tu pourras trouver solidaire. Pourquoi les passions sont en uniforme? Pourquoi les libertés régressent? Pourquoi si tu n'es pas dans la norme, le Babylone système t'agresse? Comme ça tu te poseras plein de questions, nous-mêmes on s'est déjà posé. La seule réponse qu'on ait trouvée, c'est que tous les jours faut militer. Tu verras le monde tourne à l'envers, j'ai l'impression que ça dégénère. Mais y'a encore quelque chose à faire, c'est pour ça qu'on sera père et mère. Tu verras le monde tourne à l'envers, j'ai l'impression que ça dégénère. Mais y'a encore quelque chose à faire, c'est pour ça qu'on sera père et mère. Faudra pas tergiverser, pas toujours se perverser.
Voilà, c'était un extrait de Fiction de Ballet Bache Crew. Et je l'ai enlevé parce qu'en fait, vu que ça remarche, je vais pouvoir vous passer mon reportage et j'y tiens quand même. Du coup, voilà. Avant le reportage, petit agenda alternatif, si vous voulez, quand même, pour vous tenir au courant de ce qu'il y a à faire. Donc, je vous ai parlé de Semtabut ce week-end sur la ZAD de Roibon. Ce soir également, vous avez, donc là, juste tout à l'heure, un concert à prix libre à la Plume Noire. Donc la Plume Noire, c'est un bar associatif sur les pentes de la Croix-Rousse. Donc un concert à prix libre de l'auteur-compositeur interprète chilien Rodrigo Miquea González. Voilà, donc c'est la Plume Noire tout à l'heure. Sinon, si vous voulez plus quelque chose de différent, il y a aussi du slam. Du slam au bar le 6e continent. Vous regardez www.6emecontinent.fr et vous allez trouver l'adresse. Donc du slam, de la poésie. De la poésie est ouvert à tous. Vous pouvez aussi vous aussi slammer, participer. C'est ce soir à partir de 20h30, donc juste après ce journal. Et pour continuer cet agenda, maintenant on va aller sur la semaine prochaine. Jeudi 9 avril, ça me semble assez important d'en parler parce que ça va être une journée consacrée à l'opposition à la loi d'Emmanuel Macron. Voilà, on va reparler encore un petit peu de Macron. Donc voilà, donc le rendez-vous c'est à partir de 10h30 sur la place Jean Massé, donc le jeudi 9 avril. Donc voilà, pour s'opposer à la loi du ministre de l'économie et des finances. Je rappelle que la loi de Macron, vous pouvez vous renseigner, mais bon, qu'est-ce qu'elle inclut? C'est notamment beaucoup moins de droits pour les salariés et aussi beaucoup moins de droits pour les syndicats indépendants. Avec une mesure phare et emblématique et vraiment que je trouve vraiment pas bien du tout parce que c'est travailler le dimanche. Donc voilà, cette loi prévoit que toutes les personnes qui travaillent dans les commerces travaillent également le dimanche. Donc voilà, c'est encore une fois faire passer les besoins des patrons avant la vie personnelle des salariés. Je trouve ça dommage. Donc voilà, donc pour manifester contre cette loi, c'est jeudi. Et voilà, maintenant on va passer au reportage. Donc j'étais à la rencontre de Léonard à Bron. Qui fait partie de la Petite Rustine. Alors la Petite Rustine, c'est une association qui recycle et répare des vélos usagés, voire des vélos complètement dézingués, et qui travaille également en parallèle à la promotion de moyens de transport plus humains et plus écologiques pour circuler en ville. Donc planche à roulettes, trottinettes, bicyclettes, voire métro, plus qu'auto ou mobylette. Voilà, du coup, on écoute le reportage.
C'est un projet qui est né pour améliorer un tout petit peu les déplacements en ville et apporter quelques réponses à des problématiques de traitement des déchets. Et on s'intéresse principalement au traitement des déchets liés au vélo. Et enfin tout ce qui est déchets du cycle en général. Et donc du coup l'idée c'est un petit peu de faire d'une pierre deux coups. On a un fonctionnement, un cœur de métier qui est l'atelier vélo. Et donc qui consiste à récupérer des vélos qui sont en voie de destruction et puis après ces vélos on les emmène à l'atelier où ils sont réparés ou démontés. Les vélos qui sont réparés sont soit loués, soit vendus toujours à petit prix. Enfin l'idée c'est de permettre aux gens de pouvoir se déplacer pour pas cher et de découvrir un petit peu le plaisir, la poésie du vélo. Enfin c'est
quelqu'un qui vient à la Petite Rustine, du coup s'il ramène son vélo, qu'est-ce qu'il peut
faire de trucs avec son vélo. Il peut soit le réparer lui-même et donc
c'est le concept d'auto-réparation.
C'est le concept d'auto-réparation. Alors ça c'est un truc qui est proposé à travers une centaine d'ateliers en France et 6 ateliers sur Lyon. Ce concept d'autoréparation, c'est le concept où dans ces ateliers participatifs et solidaires, du coup on vient apprendre à réparer soi-même son vélo sous les conseils d'un mécanicien. Il y a des outils qui sont mis à disposition, il y a des pièces détachées de tous les vélos qui sont démontés soit par nous, soit par d'autres bénévoles pour alimenter un petit peu le stock de pièces de récupération, qui sont vendues à petit prix. Et puis ça permet finalement de remettre les vélos en état. Puis après, si par contre la personne arrive avec un vélo qui est trop foutu, et ben elle peut toujours en faire don à l'association et nous on saura quoi en faire, soit pour en récupérer juste les pièces qui peuvent être remontées, et puis après généralement il finit d'être dézingué et là ça laisse une grande marge d'imagination à tout ce qu'on peut faire sur la récup, parce que même un tube de métal globalement, si on sait souder, on peut en faire plein de trucs.
Mais du coup, autoréparation, ça veut aussi dire que même s'il répare lui-même son vélo, la personne qui arrive avec son vélo, vous l'aidez et vous le conseillez.
Ouais, complètement. Alors on laisse personne, on s'assure à chaque fois avant de quitter l'atelier que ces vélos roulent, qu'ils sont fonctionnels, qu'il n'y a pas de trucs dangereux dessus qui pourrait mener à un accident et tout, juste sur une faute mécanique, quoi. Et l'idée c'est vraiment de pouvoir permettre à n'importe qui de pouvoir apprendre. Et puis du coup ce que ça génère derrière, c'est que je peux pas dire, il y a des gens qui disent que la petite Rustine vend des vélos, et en fait je crois qu'on fait pas des vélos, on fait des cyclistes. C'est qu'on fait des gens qui sont autonomes derrière et qui sont capables d'entretenir une panne sur la route, une crevaison, un déraillement, ne serait-ce que pour les bases, et puis après pousser un peu plus loin pour des choses qui éventuellement nécessitent d'avoir un atelier. Mais rien que de transmettre les petites compétences déjà, ça permet je sais pas, pour beaucoup de gens la culture automobile parle plus, et donc du coup si on peut faire un parallèle, pendant longtemps les voitures pouvaient se réparer dans un garage chez soi en fait, et maintenant qu'on a des cartes électroniques c'est plus complexe. L'idée c'est de toujours pouvoir garder une capacité d'entretien par soi-même, du coup qui économiquement est intéressant, parce que ça permet à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de payer un garagiste de pouvoir quand même comprendre comment fonctionne l'engin qu'ils utilisent et pouvoir le réparer eux-mêmes. Et puis après c'est dans les idées qu'on porte aussi à la petite Rustine, c'est ce côté d'empuissantement, c'est la traduction française du mot empowerment, mais c'est donner la capacité aux gens de savoir faire des trucs. Et à l'heure où le travail se tertiarise, qu'on passe beaucoup de temps derrière des ordinateurs qu'on sait même pas forcément tous comprendre, ni coder, ni décortiquer, là c'est revenir à de la mécanique qui est très simple, très fine aussi, mais qui est vraiment très abordable. Et ça fait du bien de se retrouver avec des outils devant une carcasse de vélo. Enfin, c'est réparer son vélo, c'est comme ranger sa chambre. Quand tu le fais, après ça va mieux. C'est juste quelque chose qui est adapté pour du transport en milieu urbain quand on a la condition physique, bien sûr, mais c'est le cas de beaucoup de personnes quand même, et donc c'est pour ça que c'est intéressant. Après, il y a toujours d'autres alternatives, et c'est pour ça qu'on a toute une partie du projet qui est orientée sur la promotion de l'écomobilité au sens large, en fait, et pour pas avoir un plaidoyer qui s'adresse qu'à des convaincus, mais aussi à des personnes qui envisagent pas forcément les mêmes types d'engagement que nous dans la vie ou ce genre de choses, qui puissent quand même trouver un écho ici, en se disant qu'ils auront la capacité de l'information sur les modes de transport qui existent, qu'est-ce qui est près de chez eux, comment c'est facile, comment c'est adaptable à leur budget. On fait du conseil, c'est en cours d'études et c'est en train de se faire. Pour l'instant, il y a surtout beaucoup de mise à disposition d'informations qui se fait soit avec ce qu'on a là en doc à l'atelier, soit avec ce qu'on peut... avec ce qu'on peut remettre en ligne aussi, soit sur la page Facebook qu'on utilise beaucoup avant l'ouverture du site web. Puis après sur le site web il y aura tout un volet aussi sur les modes de transport doux et alternatifs. C'est vrai qu'on a une préférence pour les modes actifs d'un point de vue budget et écologie. Après, c'est pas adapté à tout le monde et c'est pas adapté à tous les déplacements. Et donc après, l'idée c'est de garder une ouverture vraiment sur tous les autres moyens de transport. Le seul truc qu'on essaie d'empêcher, c'est des voitures pleines au quart de leur capacité en fait qui roulent. Et pour ça, il y a des petits calculs tout bêtes qui permettent juste de se rendre compte, c'est que quitte à déplacer une personne, on va déplacer entre 70 et 80 kilos en moyenne. Et que du coup, pour déplacer ça, est-ce qu'on rajoute 12 kilos de vélo ou est-ce qu'on rajoute une tonne 5 de voiture? Et puis après, qu'est-ce qu'on on peut se poser la question des énergies qui servent à alimenter le déplacement. Et le cycliste se déplace essentiellement au gluten. Et c'est quelque chose qu'on a plus ou moins en abondance grâce à la PAC en France. Donc c'est faut savoir en tirer profit. Les Français mangent du pain et ça alimente nos vélos. Et puis à côté de ça, il y a des voitures électriques en libre partage, il y a des transports en commun, il y a des vélos électriques, les procédés technologiques sont là. Donc je pense qu'il y a juste des efforts à faire en fait pour permettre à chacun de trouver un moyen de transport adapté et qu'après sur chaque produit il y a des cycles de recyclage ou de réemploi qui soient effectifs et qui soient fonctionnels. Il faut que chacun trouve finalement une manière plus intelligente de se déplacer que le rêve de la voiture à 18 ans avec un permis de conduire et puis après ce que ça génère sur un climat social aussi, c'est très intéressant. Les modes actifs de transport permettent d'avoir une ville qui est plus apaisée, qui fait moins de bruit, qui sent moins mauvais, qui fait pas de l'asthme chez les petits enfants parce qu'ils respirent des pots d'échappement à l'arrière des poussettes. Beaucoup de choses qui font que c'est plus intéressant d'avoir cette circulation paisible finalement. Et tant qu'on a des gens qui sont à l'air libre comme sur un vélo, une trottinette, un skateboard ou à pied ou même en transport en commun, en fait on a des gens qui sont en capacité de communiquer les uns envers les autres, de se regarder, de voir, et on a besoin de ça, on a besoin de passer du temps ensemble, je pense. On a besoin de savoir qui habite à côté de nous, on a besoin de savoir
est-ce que ça marche bien, est-ce qu'il y a vous trouvez globalement il y a beaucoup de gens qui sont qui viennent avec leur vélo ici ou qui viennent même être conseillés?
On a des étudiants, on a des profs, on a des habitants de la ville. Et en fait, toute l'année dernière, en 2014, on n'était qu'en atelier mobile. Donc, on se réunissait sur des festivals, on faisait des animations en entreprise, des animations pour des fêtes de quartier. Et puis là, on touchait vraiment un public très hétéroclite, mais qui dépendait beaucoup de l'événement sur lequel on se greffait. Et donc, du coup, quel type de public allait ramener cet événement. Et c'était pas mal, ça permettait de toucher vraiment beaucoup de gens. Et là, depuis janvier, où on a ouvert un atelier, il y a un peu comme un nouveau point de départ aussi, un nouveau souffle qui est dans le projet. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train d'avoir une remorque garée à 3 rues du grenier au deuxième sous-sol pour faire des animations, plus le grenier qui est au deuxième étage avec les vélos qu'on monte sur le dos. Enfin, déjà, on a tout le plein pied et puis ça permet de travailler dans des bonnes conditions aussi. Et il y a un truc qui change, il y a plus de monde qui vient, il y a des gens qui sont contents vraiment des services qu'on propose, la location de vélos qu'on ne savait pas trop si ça allait marcher, vu que c'est des vélos de récup et trucs comme ça, mais qu'on voulait quand même les faire tourner pour juste pas qu'ils restent tout beau tout neuf réparés à l'atelier quand les gens n'ont pas forcément les moyens d'en acheter un. Puis on n'est pas là pour pousser à l'achat. Mais c'est. Du coup, oui, il se trouve que chaque truc qu'on propose, on trouve des gens qui sont intéressés et à mesure que le mot se passe, on a de plus en plus de fréquentation de l'atelier. Ouais.
Mais justement, d'où est partie cette idée? Ça fait combien de temps que vous avez cette idée et d'où c'est parti?
Ça, c'est une longue histoire. On est avec Jonathan, du coup, qui est le cofondateur avec moi-même de la Petite Rustine. On est rentré en partenariat avec. On est rentré en service civique, sur un truc qui était porté entre deux associations, District Solidaire et Unicité, qui voulaient faire émerger des projets dits de l'économie sociale solidaire, du coup un petit peu comme la Petite Rustine aujourd'hui et les autres qui étaient un petit peu dans les bacs à l'époque. Ils voulaient monter trois projets, donc un qui faisait un atelier vélo, un qui faisait un un garage automobile où on apprenait pareil aux gens à réparer par eux-mêmes, et puis un projet de bricolage collectif qui avait quelques motivations sur le bricolage à partir de récup, mais il se trouve que ni le garage automobile ni le projet de bricolage collectif ont vu le jour, en fait, au bout d'un an de service civique. Et notre mission avec Joe, quand on était en service civique, c'était d'éditer un business plan social, du coup avec les outils de l'entrepreneuriat social, pour envisager un modèle d'atelier vélo qui soit autosuffisant, du coup, et qui puisse se permettre, bah, du coup, une grande liberté d'action vis-à-vis de son autofinancement.
Et du coup, aujourd'hui, vous y êtes ? Ça fait combien de temps que vous y êtes ?
Alors, non, on n'y est pas. On est toujours pas à l'autofinancement. C'est des questions qui sont pas faciles à se poser. Mais pour l'instant, on arrive à salarier un mi-temps au mécano. Et puis, à mesure qu'on développe la manière qu'on a de s'adresser à des gens qui ont un petit peu d'argent et qui ont besoin de faire des progrès sur la politique d'écomobilité de leurs entreprises ou de la collectivité, si on peut fournir un conseil pertinent et tout ça, bah c'est des prestations qui peuvent se facturer. Et ça génère de l'autofinancement pour l'atelier. C'est le travail qu'on a fait avec Jonathan, notamment sur comment s'adresser à des gens qui n'auront pas forcément ni un intérêt, ni un engagement, ni un militantisme, mais qui peuvent trouver finalement un écho et quelque chose qui viendra résoudre un problème auquel ils se confrontent.
Et voilà, c'était donc Léonard de la Petite Rustine. Voilà. Et si vous voulez vous rendre à la Petite Rustine, c'est donc au 5 avenue Pierre Mendès France, à Bron. Donc ça se situe en gros entre l'arrêt Rebuffer et Paris Université. Et vous pouvez aussi vous renseigner sur l'association sur Facebook, La Petite Rustine. C'est P'TITE, donc voilà, La Petite Rustine. Et voilà, vous pouvez vous renseigner sur Facebook. C'est donc la fin de ce Canu Info du vendredi. Je vous souhaite donc une bonne soirée, un joyeux vendredi soir, et on se retrouve dans deux semaines, tout de suite, Noise Pollution.